France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Claire Barden et Adrien Mondou. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons une transcription pour piano solo de l'Allegro du concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach par Florian Noack. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier qui est ce soir à Valenciennes pour nous faire découvrir le festival Cabaret de Curiosité dédié au spectacle vivant. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir Claire Barden.
Bonsoir Arnaud Laporte.
Bonsoir Adrien Mondeau.
Bonsoir.
Alors, j'ai pas l'habitude, hein, je vais passer, ma tête va tourner de l'un à l'autre, mais il arrive quelquefois dans cette émission, je reçois deux invités quand leur création est commune, c'est votre cas. Vous présentez en ce moment En Amour, installation expérience en collaboration musicale avec Laurent Barden, c'est à la Philharmonie de Paris, dans l'espace d'exposition de la Cité de la Musique, c'est à voir jusqu'au 24 août. Ça me donne le temps, ça me donne l'occasion de vous recevoir. Alors vos noms en entier ne sont peut-être pas familiers aux oreilles de nos auditrices et auditeurs, c'est parce que vous signez votre travail du nom de votre compagnie, Adrien M et Claire B, ce soir. J'utiliserai vos noms complets, hein, bien sûr, pour cet entretien. On essaye chaque soir, vous le savez, de retracer le parcours des artistes que nous recevons, de vous interroger sur leur méthode de travail. Alors, il faut bien dire qu'il y a un parcours personnel qui précède votre rencontre et vos créations en commun. Alors, vous êtes né quand même dans la même ville, Grenoble, à un an d'écart. Mais il faudra attendre que vous entriez tous les deux au tout début de la trentaine pour que vous vous rencontriez. Alors, avant cela, Claire Barden, dire que vous avez grandi à la campagne, de ce fait développer un lien fort à la nature, toujours présent dans vos créations, on va le voir. Mais sur la question de la vocation, pourquoi est-ce qu'on devient artiste? Vous avez dit avoir eu une crise existentielle à l'âge de 15 ans, avec cette certitude que vous seriez artiste. Vous savez d'où elle vient, cette certitude?
Elle vient probablement du fait que j'avais pas envie de faire HEC.
Ouais, ça me paraît déjà une bonne raison.
Et que c'était un peu la seule chose que me proposait la conseillère d'orientation au lycée. Elle vient aussi du fait d'avoir eu des parents qui m'ont vraiment laissé la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et je les en remercie. Et elle vient aussi du goût que j'avais de faire des cabanes, c'est-à-dire de créer des espaces symboliques dans lesquels on joue. Voilà.
Tout était déjà inscrit, mais on va développer. De votre côté, Adrien Mondeau, vous vous familiarisez avec les ordinateurs, ai-je lu, dès l'âge de 5 ans. Et, grand saut dans le temps, vous commencez à jongler à 19 ans. Alors, le jonglage, une action du corps. Et là encore, on verra voir que le corps est très important dans vos créations. Vous aviez été quoi, fasciné par des jongleurs? Vous aviez vu cela? Vous aviez envie de le faire vous-même?
Il y a eu un choc esthétique. J'ai vu à Grenoble, en 97, un festival de jongleurs. Et dans la rue était tout soudainement envahie de jongleurs. Et même quand ils allaient faire les courses au supermarché, ils jetaient les objets en l'air. Ça m'a fasciné, en fait, ce rapport du jeu aux choses et le plaisir visible qu'ils y prenaient. Et ça a mis 2 ans, je pense, avant de faire son petit bout de chemin dans ma tête. Et que une fois, en rassemblant trois paires de chaussettes, je me suis mis à les jeter en l'air en me disant « je vais y arriver ».
Vous avez appris tout seul?
Oui.
D'abord?
Oui.
Il y a eu une formation à un moment donné ou pas?
Non.
Autodidacte.
Voilà, autodidacte. C'est en fait, ça a permis aussi de travailler une forme de jonglage qui était peut-être pas tant représentée. J'ai beaucoup progressé une année où j'étais vraiment enfermé dans ma chambre à Montréal et il faisait très froid et je sortais pas beaucoup et je voyais pas grand monde.
Et là, il faut beaucoup de chaussettes, en effet. Vous avez, Claire Barden, tout d'abord été élève de l'école Estienne, dont vous sortez en 99, BTS de design graphique. Ensuite, c'est un diplôme de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'ENSAD, à Paris, en scénographie, dessin, espace, là encore, toujours déterminant dans votre pratique en duo. Le dessin, est-ce que c'est toujours une des bases de vos créations?
Pas forcément. Ça fait partie de mes outils pour écrire les projets, mais là, rien que le fait que je dise écrire, je dévoile déjà la suite. Je ne peux plus me passer des mots.
Ouais, mais le dessin est une écriture.
Et le dessin est une écriture, mais j'ai toujours, mais depuis le début, depuis mes études, beaucoup écrit. Beaucoup écrit pour concevoir à la fois des images et des espaces.
Alors on poursuit pour dire qu'Adrien Mondo, vous suivez un magistère d'informatique à l'Université Joseph Fourier de Grenoble, avant de travailler à l'INRIA pendant 3 ans, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique à Grenoble. Vous concevez de nouveaux outils de création graphique. Alors qu'est-ce que vous cherchiez à produire comme outil C'était quoi votre désir de chercheur?
C'était de fabriquer des outils de dessin. J'aurais aimé être... illustrateur, dessinateur, graphiste, peintre, je ne sais pas, quelque chose de cet ordre-là.
Mais vous auriez aimé être Pierre Bardenne ou...
Peut-être. Non, mais j'aurais aimé savoir dessiner, mais dans les faits, je ne le savais pas et je n'ai jamais eu la patience de l'apprendre. Et j'ai eu la sensation qu'il était plus intéressant pour moi de fabriquer des outils qui servent à dessiner.
Alors, pendant ce temps-là, Claire Bardenne, vous collaborez à plusieurs projets liés à la mobilité urbaine, dit comme ça, on peut se demander de quoi on parle, mais il y a l'atelier ici même, à Paris, il y a le projet Troll, avec les architectes d'AWP qui aboutit, je me souviens qu'on en avait parlé à l'époque, à une performance nocturne avec le collectif Stalker à Rome, c'était en 2005, et puis vous avez fondé à Paris l'année précédente avec Olivier Westman un studio, BW, création d'identité visuelle, graphisme d'exposition, graphisme multimédia, et 2006, donc seconde crise existentielle, vous partez marcher seul, vous partez de Saint-Agrève, ça fait longtemps que je ne suis pas allé là-bas, en Ardèche, mais je connais, jusqu'à Castelnaudary, je connais aussi bien, ça fait quand même quelques centaines de kilomètres, ça use les souliers, mais ça permet quoi, de vider, de régénérer le cerveau, de faire le point sur ce dont vous aviez vraiment envie à ce moment-là?
Je pense que c'est exactement ça. Déjà, je peux témoigner, donc j'avais 27 ans, j'étais une femme, je suis toujours une femme, et faire 600 km de marche, toute seule, certes sur un GR balisé, c'était aussi une façon, je pense, d'éprouver le fait que je pouvais faire des choses toute seule. Et je pense que ça sert surtout à la fin de se dire, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il faut y aller. Il faut y aller parce que ça se passe bien. Et surtout de revenir à quelque chose d'essentiel, ça m'a permis d'alléger aussi un certain nombre de besoins. De me dire en fait, pour te sentir bien dans la vie, pour te sentir exister, t'as juste besoin d'être dans la nature et de marcher. Et ça sera déjà ça.
Un bon début. Alors, je refais encore un petit tour de l'autre côté de la table. Tout en étant chercheur, Adrien Mondo, vous continuez à jongler. Vous découvrez aussi la danse. D'abord, à l'invitation d'Yvan Alexandre. Vous participez à une création collective, Ose. Vous fondez la compagnie Adrien M, avec pour idée de faire se rejoindre vos différentes passions, les arts numériques, sonores, le jonglage, le mouvement. Il y a une première création, Convergence 1.0, qui vous amène à développer un logiciel... Emotion, nom bien choisi. C'est quoi la fonction de ce logiciel quand vous le créez? Vous voulez faire quoi comme outil?
Je veux faire au départ un outil qui permettrait de chorégraphier des objets visuels de la même manière que celle avec laquelle je jongle, c'est-à-dire en utilisant des propriétés physiques, des règles physiques qui sont celles que le public est intuitivement habitué à avoir. Et c'est du mouvement organique.
Donc ça veut dire, il faut, on va en reparler plusieurs fois dans vos créations, c'est-à-dire il faut regarder la nature et tenter de faire quelque chose qui parle bien
emotion,
la technologie.
En gros, c'est j'observe des règles de la nature, il y en a qui me fascinent et je dis ah j'adore.
Comme quoi, un exemple.
Par exemple, une feuille qui tombe. Alors comment elle tombe? Il y a un peu un petit mouvement brownien, la gravité. Elle tombe d'une certaine manière et de cette manière-là, on va en déduire un peu son identité. Quand on retrouve l'équation de cette feuille qui tombe et qu'on l'applique à un point, si on a l'impression qu'on voit un point qui tombe comme une feuille morte, ben, ça veut dire qu'on a quand même capturé quelque chose de l'essence du mouvement. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait. C'était faire naître des émotions avec du mouvement de forme abstraite.
Alors, ce talent, vous allez le mettre aussi au service, en collaboration avec différents artistes, Johan Bourgeois, Kitsou Dubois, Stéphanie Aubin, le groupe de musique Ezekiel, que j'ai bien connu aussi. Et puis, vous avez créé Cinématique, là, vous faites se rencontrer danse et matière numérique. C'est le grand prix du jury au festival Bain Numérique, organisé par le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains, qui va avoir toute son importance. Puisque pendant ce temps-là, Claire Barden, vous initiez un projet, vous êtes intitulé Wicklow, avec, qui associe le dessin, les micro-éditions, les performances. Vous travaillez sur l'imaginaire des images, sur les signes, sur les signes et sur les constructions d'espace. On revient à la cabane de l'enfance. Mais il est grand temps de parler de votre rencontre. Roulement de tambour, c'est en 2010, dans le cadre d'un labo au Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors, il y a toujours deux versions d'une rencontre. Donc on va commencer par, pour changer un peu. Bon, la rencontre avec Claire Barden, Adrien Mondo, ça s'est passé comment ?
Ben, la semaine de laboratoire que j'avais initiée, donc j'invite des gens que je ne connais pas, des proches de proches, et Claire m'a été conseillée par une amie très chère, Charlotte, et du coup quand elle arrive, on se met à travailler assez vite. Je sens que on arrive à construire des idées qui rebondissent d'une manière qui me semble hyper intéressante, dans le sens où ce n'est pas juste le prolongement d'une de mes idées, mais c'est plutôt un nouvel espace qui se crée.
Votre version à vous, Claire Barden.
Moi, j'ai la sensation que le premier jour de notre rencontre, le binôme se forme. Dans une
instantanément.
Quasiment instantanément. On était plusieurs artistes. Il y avait... une violoniste, une danseuse, un régisseur son, créateur son, bref. Et en fait, on s'est retrouvés tout de suite à un endroit autour du logiciel Emotion, où moi, tout d'un coup, j'avais l'impression de découvrir un immense champ de poudreuse dans lequel je pouvais inventer tout un tas de traces et de dessins, et d'avoir le développeur qui pouvait créer sur mesure tous les outils et toutes les envies que je pouvais avoir.
Bon, loin des Alpes, l'image neigeuse marche pour vous deux, c'est ça ? Même à Enghien-les-Bains.
C'est ça.
Votre compagnie, vous allez la fonder en 2011, quand la compagnie Adrien M et Claire B, à une époque où la technologie, ça c'est peut-être plus la partie, mais on verra que c'est plus complexe que ça d'Adrien Mondo, mais la technologie, elle fait des bonds de géants dans le numérique, dans l'informatique. Ça permet d'ouvrir de nouveaux espaces de création, et on va voir comment vous les pratiquez. Mais d'autres ont vécu cela avant vous. On va écouter cette interview de Georges Méliès, en 1937, qui se souvient de sa rencontre avec les frères Lumière.
Le contact réel a été établi entre moi et M. Lumière par suite de circonstances tout à fait fortuites. Je le rencontrais dans l'escalier du théâtre, dont j'étais directeur à ce moment-là, au théâtre Bérouda. Il venait voir au-dessus de chez nous un photographe, M. Clément Maurice, qui fut plus tard son opérateur. Et comme il me connaissait de vue, il me dit « Dites donc, M. Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi ?» lui dis-je. « Mais parce que vous allez voir quelque chose qui peut-être vous épatera vous-même. »
Vous y êtes allé ? Mais vous avez été épaté ?
Naturellement, tout ce qu'il y a de plus épaté. Au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, que nous faisions à la fin de notre spectacle, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections. Il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Il avait fait exprès de laisser son image immobile pendant quelques temps. Quand tout à coup, je vis dans la sortie des ateliers Lumière, les personnages se mettent en mouvement, venir vers nous. Quelques minutes après, un train s'est lancé et prêt à traverser la toile, se précipiter dans l'auditoire. Nous étions tous, je dois le dire, absolument stupéfaits, vous comprenez bien.
Et vous avez jamais vu penser à votre public.
Oh, mais pensez donc, immédiatement, j'ai dit, voilà mon affaire, un truc extraordinaire.
C'est à l'union de vous céder ou de vous louer l'appareil.
Bien entendu, vous pensez bien, en tant que directeur de théâtre. Seulement, je ne m'attendais pas au refus que j'ai essayé à ce moment-là. C'était le père de messieurs Louis et Auguste Lumière qui était là ce soir-là et qui m'a répondu immédiatement. Ceci est un appareil scientifique destiné aux médecins pour étudier le mouvement, les muscles, etc. Et non pas un appareil pour aller faire des représentations publiques.
Il n'avait donc pas compris du tout la portée de son invention.
Pas le moins du monde.
Alors, dans votre théâtre Béroudin, avec l'aide de vos machinistes et de vos opérateurs, vous avez réussi à reconstituer cet appareil,
oui,
à peu près.
C'est-à-dire que comme j'étais dessinateur, j'ai commencé par dessiner tous les systèmes mécaniques qui me paraissaient pouvoir produire ce mouvement-là, et j'ai fini par en trouver un qui me paraissant bon, a été exécuté dans l'atelier même du théâtre, et j'ai eu la chance du premier coup de réussir un appareil qui marchait, tout en ayant un système complètement différent de l'appareil breveté de Lumière.
Ça, c'était Georges Méliès racontant cette première projection, évidemment tout à fait historique, au Grand Café, 27 décembre 1895. Quand on découvre votre travail, celui alors d'Adrien M et Claire B, on peut s'imaginer ce que les spectateurs des premiers films, mais aussi des films de Méliès, pouvaient ressentir. Comment vous entendez cette archive, Adrien Mondeau ?
Ah bah, c'est une référence à la joie d'essayer des choses et on sent une forme de naïveté et de fascination absolument prodigieuse dans la voix de Méliès. Et en fait, cette joie du jeu, d'avoir un dispositif qui permet d'émerveiller, je pense qu'il y a quelque chose dans lequel je me reconnais, même si aujourd'hui la technologie va tellement vite qu'on est tous totalement dépassés. Même moi, je me dis, oh là là, je ne vois pas. Mais comment ça peut aller aussi vite? Mais c'est vrai que si je repense à il y a 20 ans, au tout début, pour moi, en 2004, de projeter sur un tulle des images dynamiques qui réagissent au mouvement du corps. La première fois que je l'ai fait dans une salle de répétition, tous les techniciens se sont arrêtés de parler et ont regardé.
Il faut bien expliquer, hein. Projection sur un tulle, on voit bien ce que c'est, ce tissu presque transparent, tendu dans l'espace, et en fonction du déplacement qu'on peut opérer autour de lui, il se passe quoi ?
Ben, en fait, c'est entre une image qui est figée dans le sens où elle va toujours répéter la même chose et un mouvement dynamique. En fait, on a la sensation, l'illusion d'une vie qui peut apparaître. Ça crée le trouble. En plus, on fait en sorte que l'image sorte de son statut d'image, c'est-à-dire que on voit pas son contour. On oublie que c'est une image. Ça peut devenir vraiment un être vivant. Ça peut devenir un territoire. Ça peut devenir un partenaire. Et le moment de cette découverte, en fait. Ça a été bouleversant. Mmh. Parce que je me suis dit, c'est un outil pour faire du théâtre qui est absolument incroyable. Parce qu'en fait, on remplace la matière des atomes par les photons de lumière qui sont aussi légers que les idées. Et du coup, on peut évoquer sur le plateau des choses qui étaient à peu près impossibles à évoquer autrement de manière réaliste. Et c'est comme ça que j'ai conçu mon premier projet où j'avais envie d'explorer les fantasmes et les cauchemars du jongleur, que ça soit d'être enseveli sous une montagne de balles, jusqu'à aller en fait à sa peur de la disparition complète des balles. Et qu'est-ce que c'est que de jongler juste avec l'image du jongleur.
Pour vous, Claire Marden, comment est-ce que vous entendez cette archive de Méliès ? Qu'est-ce que ça évoque par rapport à votre propre travail sur la question effectivement de la technologie qui est un outil d'émerveillement ?
J'entends aussi beaucoup l'artisanat, qui, je pense, est au cœur de notre pratique à tous les deux. Enfin, moi, par le dessin, Adrien, par le jonglage, on a un rapport à la manipulation, à la main qui est très présent. On aime beaucoup fabriquer les choses, on aime beaucoup faire les choses à une échelle artisanale aussi, en équipe, avec tous nos partenaires de la compagnie. Et je retrouve ce plaisir-là dans la voix de Méliès. Ouais, un artisanat magique, en fait. Mmh. Et je crois que l'émerveillement, il est inversement proportionnel aux moyens qu'on y met, quoi. Et nous, c'est vrai que dans le théâtre, c'est pas une industrie, hein. Le théâtre, on est sur des moyens qui sont quand même plus réduits que le cinéma, aujourd'hui. Et on aime faire apparaître des choses magiques, émerveillées, mais en essayant d'être le plus astucieux possible, quoi. Voilà.
Alors, vous avez parlé tous deux de théâtre, de spectacle, et on va revenir sur cette dimension-là, mais pour un peu mieux comprendre encore la façon dont vous concevez votre travail, et dire qu'entre 2011 et 2015, vous avez signé 10 installations intitulées X, Y, Z, T, paysages abstraits, qui ont été présentés d'ailleurs ensemble en 2016 au Palais de la Découverte à Paris. Peut-être un bon point de départ comme ça, puisque ça a été aussi le vôtre, pour explorer votre univers. X pour horizontalité, Y pour verticalité, Z pour profondeur et T pour temps. Est-ce que vous diriez, vu d'aujourd'hui, c'est pas si vieux mais tout de même, que cette première œuvre, c'est une forme de manifeste de ce qu'allait être votre recherche ? Claire, Marden ?
Absolument. Alors, c'est confusant parce qu'à la même année, on a aussi créé une conférence spectacle qu'on a voulu être manifeste de notre projet artistique commun. Mais ça a moins tourné. XYZT était encore montré en 2020 à la Gaîté Lyrique dans le cadre de Faire Corps. Et on a fait évoluer les œuvres, en fait, jusqu'à aujourd'hui, où elles sont encore présentées, pour qu'elles restent, en fait, fonctionnelles et tout à la fois intuitives. Et je crois que c'est vraiment l'endroit où on est allé explorer notre espace de recherche et de création en commun, qui était plus et autre que ce que chacun de nous deux, on pouvait faire seul. Ce qu'exprimait Adrien tout à l'heure.
Oui, parce que pour ces installations-là, l'idée, c'est qu'on se promène, nous, spectateurs, et qu'on est environnés de signes, et on va, d'une certaine façon, interagir avec eux, ou eux avec nous, c'est toujours aussi le mystère. Très concrètement, vous souhaitiez quoi comme expérience pour le spectateur, Adrien Mondeau?
Le souhait pour le spectateur, c'est le spectateur qui l'a formulé presque au départ, puisque... En fait, c'est à l'issue des représentations, souvent les gens viennent nous dire « Ah, mais on adorerait monter sur scène et essayer, voir comment ça marche, pouvoir expérimenter. » Et on a pris ça, en fait, au pied de la lettre. On s'est dit « Bah, faisons un parcours qui permette aux spectateurs d'éprouver les dispositifs qu'on crée pour les spectacles. » Une sorte de cadeau pour qu'ils puissent rentrer sur scène et jouer avec le décor. Et après, voilà, on a étoffé ce dispositif. On a cherché à raconter une histoire sur une nature resynthétisée.
On va très vite en venir en amour, parce que c'est vrai, c'est un cas pratique dont on peut faire l'expérience et jusqu'au 24 août. Mais il faut dire donc que votre travail, il peut prendre quand même plusieurs formes, spectacle, installation, on l'a dit, collaboration évidemment avec des artistes du théâtre, de la danse, de la musique, exposition, mais aussi publication. Est-ce qu'on peut dire que c'est le même projet artistique, mais développé selon des moyens différents?
Quand on s'est rencontré avec Claire, je pense qu'on s'est fait aussi cette réflexion qu'on avait envie de mettre aucune frontière, a priori, sur le format des œuvres qu'on avait le désir de travailler. Aucune limite, ni de temps, ni d'espace. Et c'est comme ça qu'on en arrive à penser un livre pop-up, à lire en réalité augmentée, ou... d'autres expériences qu'on a pu concevoir.
Mais je rebondirai sur la notion de frontière. Je crois que la question de ne pas se mettre de frontière est vraiment l'axe de notre recherche. Donc à la fois, je dirais, dans les formats produits, mais aussi dans le fait qu'on cherche à rendre poreuse, à rendre complètement fine et transparente la frontière entre ce qui est matériel et ce qui est immatériel, entre le corps et l'image, entre le vivant et le non-vivant, entre l'ici et l'ailleurs et l'invisible. Et c'est vraiment, c'est vraiment autour de ça que s'articulent tous nos projets, en fait. Même si à chacun, avec chacun, on a essayé de développer une histoire qui lui est propre.
Mais vous aimez bien dire que vous êtes des gens du spectacle, mais c'est parce que l'humain, le corps, les émotions sont au cœur toujours de vos œuvres. C'est quand même au départ de l'humain qu'il s'agit.
Oui, toujours. L'humain et le vivant est toujours au cœur du projet, et fabriquer des images seules, ça ne nous intéresse pas, parce qu'en fait, c'est quelque chose de factice, et je trouve que l'émotion, elle vient de sentir que les choses sont faites dans l'instant, avec une forme de fragilité. On ne cherche pas du tout à créer des images écrasantes, mais plutôt à créer des systèmes qui révèlent des choses qui nous font voir l'invisible.
Ce sont des expériences sensibles.
Oui, et l'enjeu est d'autant plus important que justement on utilise des technologies numériques. C'est-à-dire de se dire, il est possible de mettre au cœur de l'intention et de l'usage des technologies quelque chose qui prend soin, quelque chose qui fait remonter cette fragilité du vivant, du spectacle vivant, et d'une certaine vulnérabilité aussi, avec du risque. Adrien dit souvent, moi je suis jongleur, j'ai besoin de sentir que je prends le risque de faire tomber la balle. Cette énergie-là, en fait, on essaye de l'insuffler à l'intérieur même de ces outils-là.
Il faut comprendre que les outils numériques qu'on conçoit sont, comme le dit Claire, ont la fragilité du jonglage. Des fois, on a l'impression d'avoir des espèces de cathédrales d'allumettes qui peuvent s'enflammer à n'importe quel moment où tout peut s'effondrer. Parce qu'en fait, d'un point de vue logiciel, c'est développé tellement artisanalement. Enfin, peut-être qu'on est en train de changer aujourd'hui là-dessus, hein, mais en tout cas, jusqu'à il y a peu, c'était vraiment comme ça, avec des ordinateurs qu'on était en train d'ouvrir pendant que le public entrait, en espérant que ça fonctionne. Et tous les régisseurs avaient l'impression de marcher marcher sur des œufs pendant toute la...
Ça tient du miracle.
Ça tient du miracle, et parce que j'ai conçu des outils où, par exemple, annuler n'existe pas, parce que annuler, quand on est jongleur, ça n'existe pas, on ne peut pas annuler d'avoir raté, et en fait, conceptuellement, c'était complexe pour moi de penser le fait de... qu'on puisse faire annuler dans le logiciel. J'arrivais pas à le fabriquer, à voir comment ça pouvait fonctionner en termes de code. Et donc, il y a toute une série de choses qui en ont découlé. C'est que c'est très... Pour réussir à faire un spectacle, il faut faire enchaîner un nombre incroyable de manipulations sans faire d'erreur. Et au mieux, ça se passe comme c'était prévu.
Au mieux. Pour poursuivre l'exploration de votre travail, je propose d'écouter... courte archive du mathématicien et poète Laurent de Robert, c'était sur France Culture en 2014.
Souvent, on associe l'algèbre à un instrument de torture, plutôt, quand même. Mais originellement, l'algèbre, c'est la science des fractures. Ça vient de l'algèbre, aljabr, de l'arabe, qui nous signifie, en fait, exactement restaurer ce qui a été fragmenté. Et au fond, ce que j'essaye de faire, moi, c'est de penser les fractures entre les êtres et les mondes, les rêves et les réalités, les corps et les âmes, pour pouvoir mieux les résoudre. Et même si on va un tout petit peu plus loin, et qu'on fait confiance à Aristophane dans le banquet de Platon, Aristophane nous dit « Nous sommes tous des lambeaux d'une entité déchirée, et cherchons tous notre moitié pour pouvoir recomposer l'unité primitive. » Donc si l'amour, c'est précisément chercher cette moitié, et que l'algèbre, c'est la restauration de ce qui a été fragmenté, alors l'amour, c'est de l'algèbre. Si je devais résumer en 30 secondes ces mathématiques existentielles, on a encore le temps.
On va essayer.
Nous sommes tous vecteurs de trois êtres, un être vécu, un être rêvé et un être réel, soit tel que l'on est objectivement, tel que l'on se vit subjectivement et tel que l'on se souhaite idéalement. Et chacun dans sa vie essaye de faire converger ces êtres pour réduire l'angoisse corrélative aux distances entre les êtres et les fantasmes du sujet.
Alors, évidemment, si je voulais vous faire écouter ces propos de Laurent de Robert, parce que d'abord, il y a beaucoup d'écho avec cette nouvelle proposition en amour, mais il me semble que, parce que, il me semble que votre pratique artistique, elle cherche aussi à réduire les fractures entre l'humain, la technologie, de permettre cette cohabitation non seulement apaisée, mais merveilleuse, on le disait tout à l'heure, entre l'homme et la machine. Voilà, grande question existentielle. Du coup, je la pose à Adrien Mondeau, parce qu'on a déjà eu deux crises. Côté Claire Barden, est-ce que l'art peut soigner ou peut réduire les fractures?
C'est une belle question. Pour en amour, je peux raconter peut-être la genèse du projet. Quand le musée de la musique de la Philharmonie de Paris nous a fait cette proposition... Au printemps 22, on sortait d'étapes de crise mondiale dans lesquelles nous sommes toujours, mais on sortait du Covid et il commençait à y avoir la guerre en Ukraine. Et Claire et moi, on s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est que travailler à créer une œuvre encore aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a comme sens pour nous, artistes, de créer? Et en réfléchissant, on s'est vraiment mis d'accord sur le fait que à cette époque, moi j'avais une sensation de fin du monde assez imminente, de désespoir puissant, et j'ai eu quand même cette sensation que une vie, si elle est remplie d'amour, elle peut être très courte, c'est pas grave, ça a du sens, ça suffit à avoir du sens. Et je me suis dit que jusqu'à présent, dans mon travail, la recherche d'une forme de beauté esthétique avait guidé mon choix, mes choix artistiques. Mais là, je me suis dit qu'en fait, la beauté, quand tout brûle, ça n'a pas beaucoup de sens. Et que l'amour, par contre, ça en avait encore. Donc on a proposé à la Philharmonie de faire une forme de rituel de restauration de l'amour. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que pendant le processus de création, Claire et moi, on a décidé de se séparer.
Car vous étiez devenu un couple.
Car nous étions
à la scène
couple,
comme à la ville.
Voilà, pendant 14 ans. Et par devoir de sincérité, et puis aussi pour tenir cette promesse de se faire ce cadeau le plus sincère possible, bah on a tenu au bout pour faire cette création.
On va revenir sur cette création un peu plus en détail, mais alors je rappelle qu'on demande à nos invités un choix musical pour les émissions. Alors vous avez triché hein, parce que vous avez proposé 6. Merci, vous m'avez demandé de choisir. Donc, on va écouter tout à l'heure évidemment un extrait de la bande originale, si je puis dire, de En Amour. Mais j'ai choisi un morceau qui, avez-vous précisé, a bercé la genèse du projet avant la composition de Laurent Barden. C'est dans le film Ombre sous la mer de Jean Negulesco, tourné sur l'Hydra en Grèce, que Sophia Loren chante en grec, une chanson dont le titre signifie « Qu'est-ce qu'on appelle amour ?» L'un de vous deux qui parle grec, qui donne le titre original ?
Tinafto.
Ouais, ça c'est la version...
C'est la version courte.
C'est la version courte. Allez, on écoute Sophia Loren.
Κι αρχή ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
Sophia Loren avec Tonis Maroudas pour cette chanson. Alors de quelle façon cette chanson-là a nourri la... création de l'installation Expérience en amour à vivre en ce moment à la Philharmonie de Paris, Claire Marden. Est-ce que ça nourrit notamment l'écriture de ce texte que vous avez écrit et que l'on vous entend dire dans cette installation?
Je pense qu'il y a deux choses qui, dans cette chanson, nous ont inspiré. La première, c'est probablement la douceur très puissante qui fait partie aussi de nos impondérables. C'est-à-dire que je crois que dans tous les projets qu'on développe, on fait vraiment confiance à la douceur comme puissance d'agir et comme puissance de transformation intime et collective. Ensuite, la traduction du titre, c'est « Qu'est-ce que l'amour ?» C'est une question. Et je crois que je me suis posé cette question. Et je me suis dit, bon, ok, en fait, c'est quoi l'amour ? Et je me suis rendu compte que j'avais pas la réponse, mais que pour essayer de commencer à peut-être imaginer trouver un bout de réponse, il fallait que je me mette toute nue. Mmh. Et moi, je peux citer un mot grec que j'ai découvert récemment, qui est la parésia, le courage de la vérité, le courage de sa vérité. C'est un courage de prise de risque, c'est le courage de raconter tout ce qu'on est en train de se dire là, en direct à la radio ce soir, mais qui, en même temps, donne une profonde solidité et une grande puissance, et qui donne confiance à soi et aux autres. Et c'est de cet endroit-là, de cet espace intime, que j'ai eu envie voilà, de partager notre histoire.
Un extrait de cette vérité.
Je suis amoureuse. de la rivière qui coule à côté de la maison. De ses reflets dorés, l'automne. De son courant que je remonte l'été avec mes petites sandales en plastique. De son débit agité à la fonte des neiges qui lui donne cette couleur glacier où le regard se perd. Je suis amoureuse des tourterelles qui recoulent sous la fenêtre et s'envolent le matin quand l'enfant, en pyjama dans les bras, on ouvre les volets pour saluer l'arbre et les feuilles qui frémissent et la terre humide que les merles fouissent.
Ce texte que vous avez donc écrit et enregistré, Claire Barden, c'est l'une des lignes d'écriture de cette installation expérience en amour à la Philharmonie de Paris. On a une temporalité aussi qui induit une tonalité de la création musicale qui est signée Laurent Barden. Est-ce que, alors, peut-être demander à Adrien Mondeau, est-ce que la musique est écrite à partir du texte?
Non, en fait... Pour la proposition en amour, on est obligé d'entrelacer toutes les partitions pour pouvoir...
Tout s'écrit en même temps ?
Tout s'écrit, alors pas exactement en même temps, parce qu'on n'est pas tout le temps tous en même temps, mais on est obligé de faire des allers-retours assez réguliers et tout au long du processus. Donc, il y a une note d'intention que Claire a écrite, et puis ensuite, Laurent dresse, esquisse... des sonorités, des mélodies. Ensuite, on vient avec une idée de voix. On commence à présenter quelques images, quelques idées de relations entre la musique et le mouvement. Et petit à petit, ça fait bouger la musique, etc. Et ensuite, le texte vient s'entrecaler, parfois dans la musique, parfois pas. Et c'est tout un jeu où c'est nécessaire d'entrelacer pour pas qu'il y ait qu'il y en ait un qui soit réduit au stade d'ornement, en fait. Pour que ce soit structurel, ils sont... C'est obligé d'écrire en même temps.
On écrit vraiment une partition, en fait, avec toutes les strates, à la fois d'images, de sons, d'imaginaire aussi. C'est-à-dire qu'on commence d'ailleurs par écrire une trame d'imaginaire. Quels sont les endroits où on a envie d'emmener les gens? Quel est l'objectif, en fait? Quel est l'espace intérieur qu'on a envie qu'ils éprouvent? Et après, on rassemble les outils qui vont nous permettre d'accéder à ces états-là, quoi. Mais au début, c'est vraiment une partition d'imaginaire.
Alors, donc dans cette partition, on a parlé de l'écriture, on a évoqué la musique, on va en entendre un extrait musical dans l'amour. Parce que à la fois j'ai envie de pas trop en dire, de pas divulgâcher ce que vont vivre celles et ceux qui vont d'ici au 24 août aller à la Philharmonie de Paris vivre, si je puis dire, vivre en amour. Ça fait une jolie phrase de ce fait. On a parlé de texte, on a parlé de musique, mais il y a cet espace, c'est la façon dont vous l'avez investi. Il y a cet environnement, cet imaginaire dans lequel vous nous faites pénétrer. Alors bon. On a eu peut-être un petit indice avec la Grèce et l'île d'Hydra, mais on n'en dira pas beaucoup plus. Vous disiez, Adrien Mondeau, que tout doit se faire en même temps. On va dire que la programmation, enfin, en tout cas l'outil numérique, c'est une des écritures de la pièce, puisqu'il y a, je ne divulgage pas grand-chose, des écrans, des tulles, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, mais on est complètement dans l'image, puisqu'elle est au sol, enfin elle est partout. Cette écriture-là, elle se fait concomitamment à celle du texte et de la musique?
Oui, en fait, on travaille dans notre atelier à Cré dans la Drôme où on peut fabriquer ce projet quasiment à l'échelle 1 et du coup on peut on n'est pas obligé de travailler uniquement sur papier. On peut expérimenter ces espaces, ce qu'ils nous font vivre, ce qu'ils nous font ressentir, voir comment la parole colore l'image aussi, le mot transforme le sens, comment la musique aussi nous permet de voir les choses, au-delà d'entendre. Toutes ces synesthésies en fait, qu'on organise, c'est ça, cette partition, elle a besoin d'être vécue parce qu'elle... On a l'impression de défricher une forme de médium qui est ce format d'installation immersive où on vit quelque chose pendant, qui est à mi-chemin entre le spectacle et le cinéma, puisqu'il y a un début, une fin, une histoire, mais finalement les acteurs sont les spectateurs. Et voilà, dans ce processus de fabriquer des chaussures en marchant, ben, c'est nécessaire de passer par l'expérimentation.
Vous êtes les bêta-testeurs de votre propre travail ?
Absolument, et en fait, jusqu'à ce que c'est toujours très difficile de réunir 30, 40 personnes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment, d'un point de vue sociologique, ça va influencer. J'ai l'impression qu'à la Philharmonie, chaque séance est très différente. J'ai des gens qui m'appellent en me disant, c'est passé des trucs, c'était fou, puis d'autres qui me disaient, il n'y a personne qui a bougé, il n'y avait pas un bruit, c'était incroyable. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est très différent et qu'on est surpris.
Alors moi, ce que j'ai vu quand j'y ai été, c'est beaucoup de gens danser avec vos œuvres. J'imagine que c'est quand même une des choses qui arrive souvent. C'est la meilleure réponse.
On est un peu obligé là de divulgacher quand même un peu le dispositif. Ça permet un tout petit peu quand même de comprendre que c'est donc une séance de cinéma un peu chelou. En tout cas, ça dure 40 minutes où on est emporté dans une histoire à la fois visuelle, sonore et voilà. Et il y a aussi un espace d'interaction. C'est-à-dire que, et pour nous, dans la construction, dans la fabrication, c'est un défi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on superpose une partition statique de l'histoire qu'on est en train de raconter à une partition dynamique qui va bouger et qui sera différente à chaque représentation. Et c'est assez passionnant, mais c'est ça qui fait que chaque séance est différente.
Ouais, ce qui est bien, parce que du coup, les gens peuvent y aller plusieurs fois. Ce qui est pas mal aussi. Il me reste à rappeler que En Amour, installation, expérience, immersive au combien, en collaboration musicale avec Laurent Barden, est à découvrir à la Philharmonie de Paris jusqu'au 24 août. Il me reste à vous remercier, Claire Barden et Adrien Mandeau, d'avoir été nos invités.
Merci
à vous. Beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Combien peut-on ajouter sans perdre l'essence ? C'est la question qui anime Florent Noack quand il transcrit n'importe quelle œuvre musicale. Dans la tradition de Franz Liszt, qui avait notamment adapté les 9 symphonies de Beethoven pour piano solo, le pianiste belge tient à l'intégrité de l'original quand il entreprend une adaptation. Il s'était livré à cet exercice dans un album paru en 2014, consacré aux compositeurs russes Tchaïkovski, Rachmaninov, Rimsky-Korsakov et Liadov. Dans un nouvel album, « I Wanna Be Like You », paru sur le label La Dolce Vita, il explore de nouveaux territoires de la transcription et de la paraphrase. Si les Russes y sont toujours à l'honneur, Florent Noack est aussi allé chercher du côté de Tilman Sossato, figure musicale de la ville d'Anvers et à la Renaissance, ou encore de celui du Livre de la Jungle de Disney. Avec un certain goût pour la mise en abîme, il ouvre son album par une transcription pour piano solo du concerto pour quatre clavecins de Jean-Sébastien Bach, lui-même écrit d'après le concerto pour quatre violons d'Antonio Vivaldi. Vous avez suivi, oui, c'est le troisième mouvement que nous écoutons ce soir, l'Allegro. Thank you. C'était le concerto pour quatre clavecins en la mineur de Jean-Sébastien Bach, transcrit et interprété par Florian Noack pour piano solo.
France Culture, le grand tour, le grand tour, grand tour. Marie Sorbier.
Bonsoir, chère Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, je suis à Valenciennes dans le Nord, à la scène nationale Le Phénix, qui porte un festival d'un genre un peu particulier. Chaque année, le cabaret de curiosité accueille des créations contemporaines autour d'un thème de société. Alors l'édition 2024 s'intéresse aux réparations que les formes artistiques proposent pour dessiner un avenir commun plus apaisé.
Je m'appelle Romaric Dorier, directeur du Phénix.
Où nous nous trouvons pour ce début de la 11e édition du Cabaret de Curiosité. Cette année, vous avez choisi comme thème la réparation. Pourquoi ce thème-là ?
Les réparations, c'est parce que je pense une question qui intéresse beaucoup les artistes post-Covid, à comment peut-être au lieu d'inventer des grandes formes ou des grands récits ou mettre en scène des idées un peu vastes, il y a eu la volonté de recoudre au plus près du réel des récits, des histoires vraiment à hauteur de communauté. Et c'est dans cette idée un peu de low-tech, de fabrication avec ce qu'on a sous la main en fait, qu'est venue cette idée-là de réparation. Je pense aussi à la question de l'accélération, du réchauffement climatique, de l'état du monde qui influe beaucoup sur cette idée-là de comment est-ce qu'on prend le réel en main et qu'on essaye de retisser des liens à nouveau.
C'est un festival qui est dédié à la création contemporaine. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il est dédié à la jeune création ?
Oui, alors on essaye de faire plutôt dialoguer les générations, donc il y a à la fois beaucoup de jeunes équipes, jeunes créateurs qui sont implantés dans la région parce qu'il y a un dynamisme et un écosystème qui est devenu incroyable aujourd'hui, avec des précurseurs qui sont installés ici comme Julien Gosselin, Antoine Defort, et puis après toute une génération qui est venue s'installer, Gourchad Chaïman, Yuval Rossman. Aujourd'hui on a vraiment un tissu de créateurs dans la région qui est formidable, et chaque année on essaie d'inviter aussi une figure tutélaire qui n'est pas souvent venue. C'est le cas de Claudia Castellucci, qui n'a jamais présenté son travail en France alors qu'elle travaille depuis des années sur cette question de la réparation par la pédagogie auprès des jeunes générations, et on fait dialoguer l'ensemble de ces travaux.
Là, on va bientôt entrer dans la salle pour voir une pièce qui s'appelle « Nous ». Pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Oui, c'est Karine Goron, donc, qui a été parrainée par la compagnie de Julien Gosselin, qui est l'une de ses comédiennes, et c'est sa première mise en scène. Et c'est sur la question de la sororité, des amitiés féminines, parce que les amitiés féminines ont été souvent invisibilisées dans la littérature théâtrale et dans la mise en scène. Donc elle est partie d'une série d'entretiens avec des femmes du territoire ici, à Valenciennes et aussi à Amiens, pour savoir ce qu'étaient ces relations d'amitié entre femmes et comment est-ce qu'on pouvait les rendre visibles.
Merci beaucoup.
Un jour, j'ai commencé à m'intéresser aux représentations de l'amitié entre femmes dans l'art. J'ai tapé sur Internet « Représentation, amitié, féminine, art ». Je suis tombée sur une sculpture de Cristoforo Stati qui date du XVIIe siècle. L'amitié. Elle représente une femme seule, nue. Elle porte la main sur son cœur. La main est juste un peu sur le sein, mais le sein est très visible. Elle est debout sur un morceau d'arbre, plutôt mort.
Bonjour, je m'appelle Gaëlle Hermand, je suis metteuse en scène et je présente Danse des lits au sein du Cabaret des Curiosités au Phénix.
Alors avant de venir voir votre pièce ici au Phénix, on se retrouve là, on est dans le hall d'entrée de la scène nationale, parce que vous allez donner, comment ça s'appelle, un atelier avec des lycéens ?
Oui, c'est ça, un atelier avec des options théâtre du coup. C'est vraiment un atelier de pratique, donc le but c'est d'aller au plateau, les rencontrer, les faire travailler, enfin, c'est vraiment un temps d'échange par le plateau.
Est-ce que vous acceptez qu'on vienne juste quelques minutes se glisser dans votre atelier ?
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Vous êtes en option théâtre, c'est ça ?
Oui.
En quelle classe ?
Première.
Première. Du coup, vous faites tous du théâtre depuis plusieurs années ou il y en a qui ont... Enfin, c'est quoi votre...
Ça dépend.
Ça dépend ?
Il y en a, par exemple, qui en faisaient déjà avant, mais il y en a d'autres, ça fait juste maintenant.
Ok. Vous savez ce qui va se passer, là ? Vous êtes au cours... Enfin, ouais. Vous attendez à quoi pendant ces deux heures ?
À danser.
À danser.
Oui. Non.
Ok, premier truc, bon, c'est un exercice que j'aime bien faire pour rencontrer les gens. Donc c'est vraiment une... voilà, prenez ça comme une rencontre, comme un jeu. Est-ce que j'ai 5 volontaires? Nickel, parfait. Alors, bah, c'est facile. Vous allez chacune choper une chaise et on se fait une rangée de 5 ici. Il y en a 5 là. Je sais pas qui est compris. Alors, je vais vous demander de me raconter votre plus grande honte. Ça commence bien, non?
Qui est volontaire? C'est cool, hein.
Qui est volontaire, moi?
Moi, les deux.
Par contre, petit détail, à certains vont dire la vérité et certains vont mentir.
En fait, c'était une fois, je sais plus trop, j'étais petit, sûrement vers la CE1, CE2. Et du coup, c'est un matin, je suis en retard, je me réveille vite fait, je prends un petit déjeuner et tout, tranquille. Et je vais à l'école. Arrivé à l'école, on me dit, c'est quoi tes habits là? Je regarde, je vois, j'étais encore en pyjama. Et du coup, moi j'avais honte.
Ok. Pourquoi, selon vous, Dorian, c'est faux? Qu'est-ce qui a fait que vous n'y avez pas cru? Enfin, pourquoi?
Soit on donne trop de détails quand on ment, soit on n'en donne pas assez parce qu'on cherche à avoir une histoire qui tient la route, et finalement, après, on met trop de temps de réflexion entre des choses simples, comme j'ai pris mon petit déjeuner et mes vêtements, c'était un pyjama.
Oui.
Ce genre de choses.
Et puis, il y a eu le petit déjeuner, je devais le prendre hyper rapidement, mais bon, j'ai pris mon petit déjeuner tranquille.
Ouais.
Il y a des incohérences dans le récit.
Romaric, où est-ce qu'on vient d'arriver, là?
Alors, on est à l'Âge du Siège, qui est le centre d'art contemporain de Valenciennes et qui est une ancienne menuiserie qui a été récupérée dans les années 2000 et transformée avec ce magnifique vitrage et la lumière qui rentre, et les briques du Nord.
Mais ça veut dire que le festival Cabaret de Curiosité, c'est pas uniquement à la scène nationale au Phénix?
Ouais, c'est un peu partout sur le territoire. C'est vraiment un festival qui se déroule dans tout l'Avesnois, autour de Valenciennes, en milieu aussi rural, à plein d'endroits. On prend le bus parfois une heure pour aller voir des projets.
Et là, ce soir, vous nous emmenez voir quoi?
Alors ce soir, c'est Benoît Duvette, un très jeune artiste qu'on a accompagné depuis bientôt 4 ans à plusieurs structures, entre Centre d'art, la scène nationale, pour lui donner les moyens d'expérimenter son écriture.
Bon, bah, on va découvrir ça. Merci.
Bonjour, je suis Pascal Peset, je suis artiste et directeur de l'Âge du Siège, Centre d'art contemporain.
Où nous nous trouvons présentement, quel est le lien que vous faites entre vous, Centre d'art, qui êtes censé exposer donc des artistes plastiques, et là, une performance que l'on va voir, on est dans le spectacle vivant. Est-ce que les deux disciplines sont poreuses, selon vous?
Ah oui, absolument. En plus, bon, moi, je pense que la performance, c'est vraiment un médium qui peut s'emparer justement de toutes les pratiques artistiques. Il y a des performances qui touchent à la danse, qui touchent au spectacle vivant, mais aussi aux arts plastiques. Et c'est une des grandes forces de ce cabaret auquel on est associé depuis le début, de travailler comme ça sur cette question de la porosité. Et en plus, moi, il y a un point sur la performance qui me touche beaucoup, et ça va être le cas ce soir avec la performance qu'on va voir, c'est aussi la question de l'in situ. Et avec Benoît Duvette, c'est vraiment ça qui va se passer, parce que lui, je pense qu'au fur et à mesure des années, il a déplacé son travail vers cette question-là. Et comment on sort finalement ces propositions artistiques des cadres dans lesquels on les imagine, c'est-à-dire soit une boîte blanche pour les arts visuels, soit une boîte noire pour le spectacle vivant. Et là, quelque part, il emmène la performance à un autre endroit où on l'imagine. Donc moi, en contraire, je pense que la performance et les arts visuels ont beaucoup de choses à voir, bien entendu.
Merci beaucoup.
Benoît Duvette, artiste pluridisciplinaire.
On vient de voir votre performance, vous venez juste de sortir de scène. Merci d'accepter cette interview alors que vous n'êtes pas encore complètement redescendu, j'ai l'impression. Le thème de ce festival cette année, en 2024, c'est la réparation. En quoi, selon vous, les arts performatifs en général, et peut-être cette performance-là en particulier, qui s'appelle Mepo, que vous venez de présenter pour l'ouverture du festival, peut être considéré comme un acte de réparation?
En fait, dans ce spectacle, la thématique principale, c'est l'identité, les identités, et aussi les métamorphoses. Donc voilà, j'avais besoin de choisir, comme je disais, je suis artiste pluridisciplinaire, j'avais besoin de choisir une étiquette pour ce spectacle. C'était pas de la danse, c'est pas du cinéma, même si j'en fais, c'est pas du théâtre, c'est un petit peu tout ça au final, et j'ai choisi le terme de rituel. Voilà, et je pense que le rituel peut... On peut faire beaucoup de choses dans des rituels, avec des rituels, notamment la réparation, et se métamorphoser aussi, chercher ses identités. Voilà, c'est exactement ce dont parle le spectacle, en fait.
Suite du Grand Tour demain, Marie Sambier, où serez-vous ?
Bien demain, Arnaud, nous assisterons au casting des musiciens du métro.
Merci Marie, et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Rouberti.